As-tu peur, Pascal CV?
Surprise, par exemple. C'est qui s'est amusé à nous faire ça? En tout cas, merci, c'est divertissant.
Ben oui, c'est divertissant, c'est super, super drôle. Hey Pascal, avant qu'on passe à notre invité avec qui on voulait tellement jaser, Catherine Lamontagne, vous pouvez venir nous rejoindre sur twitch.tv/BLVD/FM. Mais rappelle-nous donc, c'est quoi donc la meilleure façon pour nous écouter, Pascal CV, à part la radio là, dans ton
Très
char?
Facile. L'application, en fait, que tu as dans ta poche, sur ton cell, à n'importe quel moment, partout où tu te trouves dans le monde, ça fonctionne. Je l'ai testé moi-même de l'autre bord de l'Afrique. Là. Mais chose certaine, application BLVD dans ton cellulaire. Sinon, sur les haut-parleurs intelligents à la maison, c'est le goût d'appeler ta radio, tiens. Tu es en train de faire à manger à tes enfants le matin, tu fais je ne sais pas quoi, tu donnes des bonbons ce soir, puis tu dis j'écouterais bien, moi, ce qui se passe à Boulevard 102.1. BLVD 102.1.
Nice.
C'est la façon de le dire. Sinon, on se retrouve aux États-Unis.
Et voilà.
À toi de voir, mais.
Puis tant qu'à ça, profitez-en donc pour vous brancher à ces endroits-là. Dimanche soir! 2
Dimanche
novembre.
Soirée électorale, mon Jean-François Fortin, okay, ça te dit quelque chose?
Hey, ça me dit de quoi? Je vais être à la même place que je suis là présentement. Oui. Toi, Pascal, tu vas aller courir les rassemblements, dont celui du maire Bruno Marchand.
Exact.
Parce qu'il nous a promis une entrevue.
Ah oui, mais moi, de toute manière, quand tu lui as dit que ce sera moi qui sera fort probablement son rassemblement, il a sûrement... Ah, merde!
Exactement.
Mais ça me rappelle que j'étais là, moi, quand il a été élu pour la première fois, parce que peut-être ce sera la deuxième
fois. Dans l'extase de la surprise.
Dans la grande surprise. Marie-Josée Savard, qui avait été la dauphine de Régis Labombe pendant toute la campagne électorale, qui semblait être celle qui allait
qui avait
être élue.
Été déclarée gagnante par Radio-Canada.
Déclarée gagnante pendant quoi, 10 minutes.
C'est ça.
A fait beaucoup d'écho au rassemblement de Bruno Marchand. On avait vu des visages très tristes et ensuite un changement total d'ambiance.
Ouais. Donc, soirée électorale à compter de 19h30. Pascal Mathias seront sur le terrain en studio avec moi, Max Antonine et Farnel Morisset. Puis, on va essayer de parler à plein de politiciens aussi. On est diffusé au 99.5 Montréal également. On va avoir bien du plaisir. Pascal, je suis tellement content que tu m'amènes ton amie Catherine Lamontagne aujourd'hui en studio. Salut Catherine, comment ça va?
Salut, ça va bien vous aussi?
Ça va super bien. Je suis content de notre première rencontre. Je te suis depuis longtemps dans le Journal de Québec. Je te suis avec tes livres. Et là, tu viens nous raconter une histoire invraisemblable qui s'est passée ici à Québec en matière de justice, et c'est celle de Jacques Delisle.
Oui, une histoire invraisemblable, mais très vraie. En
oui,
fait,
c'est
là,
ça. Ouais. Hein?
C'est une saga judiciaire qui s'est étirée sur 15 ans. Donc, tout le monde a un peu entendu parler de l'affaire Jacques Delisle. Hein? Un ancien juge à la retraite accusé du meurtre prémédité de son épouse. Et il y a eu toutes sortes de revirements, toutes sortes de rebondissements dans cette affaire-là.
Très bon scénario de film, honnêtement, mais au palais de justice.
Mais dans une histoire vraie, c'est ça qui est fou. Là, c'est que, on aurait voulu écrire cette histoire-là, puis on se serait dit que c'était un petit peu tiré par les cheveux, disons. Mais c'est arrivé pour vrai. Donc, c'était vraiment important pour moi et pour l'équipe avec qui j'ai travaillé chez Pixcom, avec le réalisateur Simon Sachel. On avait envie de rapper un peu cette histoire-là, d'aller le plus loin possible aussi pour la raconter. Notamment parce qu'il demeure, il y a encore des zones d'ombre, en fait, dans cette histoire-là, même encore aujourd'hui.
Personne n'est convaincu réellement de tout ce qui s'est passé. Il y a encore des gens déchirés de ça.
Exactement. Puis Jacques Delisle a clamé son innocence pendant tellement longtemps.
Oui, bien oui, c'est vrai. Et puis au moment, on peut repartir au balbutiement de cette affaire-là. Là. Donc en novembre 2009, quand il appelle le 911 pour dire que sa femme s'est enlevée la vie, bien dès lors, là, c'est traité comme un suicide. Là. Il va expliquer qu'il y avait une petite boîte avec une arme à l'entrée, qu'elle s'est probablement déplacée, qu'elle a fait feu elle-même pendant son absence. Mais c'est un scénario qui rapidement va perdre de sa force et de sa valeur pour toutes sortes de raisons, à commencer par une étrange trace de noir de fumée qu'on retrouve dans la main gauche de Nicole Rainville et elle est paralysée de tout le côté droit. Donc, on sait qu'elle ne peut pas utiliser le côté droit pour faire feu. Et dans sa main gauche, il y a une tache de poudre et habituellement, quand on manipule une arme de façon conventionnelle, on ne retrouve pas ça au creux de la main. Donc, M. Delisle qui sera arrêté et accusé du meurtre prémédité et qui devient, par le fait même, le premier magistrat au Canada, si ce n'est pas en Occident, à faire face à l'accusation la plus grave qui est prévue au code criminel.
Moi, je me demande, tu sais, c'est certainement une affaire qui a teinté ta carrière, Catherine, qui est loin d'être terminée, mais quand même, c'est 15 ans de couverture, tu étais là depuis le début. Il y a eu beaucoup de changements de comportement auprès du public. Puis toi, tu écrivais constamment là-dessus. Tu peux-tu nous parler un peu de l'ambiance, des courriels que tu recevais quand tu couvrais ça, de la façon dont ça réagissait au sein du public? C'est rare qu'on a cet angle-là.
C'est vrai. Mais en fait, c'est une histoire qui fascinait les gens. Pendant le procès, après le procès, quand Jacques Delisle a eu un nouveau procès après ça en 2021, là, quand le ministre de la Justice a donné un nouveau procès et que M. Delisle a retrouvé sa liberté en attente du deuxième procès, je recevais des courriels de gens, soit qui me donnaient leur opinion, ou quand M. Delisle a retrouvé sa liberté, je l'ai vu au coin de la rue. Ah, oh, et je me promenais en poussette avec mon bébé, je l'ai croisé.
Puis t'écrivais en tant que journaliste, là, tiens, des, ben, pas à toi qui t'étais journaliste, là, mais j'ai des informations.
Et, ou... Exact. Et des fois, c'est, en fait, généralement, c'était vraiment banal. Là. Moi, je pense telle affaire. Moi, je l'ai vu à tel endroit. Il fréquente tel... Mais il y avait, vraiment, c'est le mot, là, il y avait une fascination autour de Jacques Delisle et les lecteurs et les gens visiblement sentaient le besoin de partager ce qu'ils ressentaient par rapport à ça.
Jacques Delisle a été reconnu coupable en 2012, si je me souviens bien.
Oui, au terme d'un premier procès devant le jury.
Exactement. À l'émission Enquête en 2015, justement, il donne une entrevue et encore là, Jacques Delisle, à ce moment-là, clamait son innocence.
« Faut que vous sachiez que je n'ai pas tué Nicodème. »
Il raconte comment il vit l'humiliation de sa condamnation.
« Même si je n'ai pas commis de crime, mais quand même, légalement, je suis un criminel. Est-ce que c'est quelque chose dont des enfants sont fiers que d'avoir un père qui a été reconnu criminellement responsable d'un meurtre au premier degré? Même mes petits-enfants, ils se faisaient... agacé à l'école, ton grand-papa a tué ta grand-maman. Comment voulez-vous supporter ça?
Ça vous affecte encore?
Ah oui. Oui.
Alors qu'on va savoir plus tard que finalement, il a commis l'irréparable. Comment c'était dans le milieu à ce moment-là? Vous parliez-vous? Est-ce que vous aviez votre opinion? Il est coupable, il n'est pas coupable quand tu croisais du monde? T'sais? Parce que veux pas, là, avec une entrevue comme ça en 2015, c'est la sympathie du public qui essaye d'aller chercher.
Mais ce qu'on vient d'entendre en 2015, là, c'était la version de Jacques Delisle. Parce qu'il faut se rappeler qu'au procès en 2012, il n'a pas témoigné pour venir
c'est
dire ce qui s'était passé au matin fatidique du 12 novembre 2009. Et moi, en 2014, j'étais allée le rencontrer en prison. Pendant que bon, là, la cour d'appel avait refusé de casser le verdict. La Cour suprême avait refusé d'entendre l'affaire. Puis, je suis allée le rencontrer en 2014. Puis, on avait parlé de plein de choses, sauf du matin du drame, parce qu'on savait qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Il y a quelque chose qui s'en venait, mais c'était ça. C'est la nouvelle version de Jacques Delisle. Mais dans cette version-là, M. Delisle, il reconnaît qu'il a menti à sa famille. Il reconnaît qu'il a menti aux policiers. Il reconnaît qu'il a menti à son avocat. Et qu'il a une implication dans le décès de sa femme. Parce qu'au procès, c'était « je suis partie faire une commission, je suis revenue, ma femme s'est enlevée la vie », alors que là, il reconnaît avoir fourni l'arme chargée avec laquelle elle se serait enlevée la vie. Donc ça, c'était un énième revirement de situation. Là. C'est dans les... C'est ça, là. C'était comme le quatrième rendu là.
Quand on pensait qu'on avait tout vu dans le dossier, après ça, on en apprenait un petit peu plus sur sa vie personnelle. Puis ça, c'est une facette aussi qui a pris beaucoup de place, veut pas, dans la prétention de tous et chacun. On en a jasé. Il avait quelqu'un au-delà de sa femme dans sa vie. Il avait une liaison avec une femme. Il y a eu beaucoup de réactions aussi à ce niveau-là. On se demandait des fois si c'était un petit peu, de nos affaires. Mais dans une cause comme celle-là, Catherine, se l'est le moindrement. Mais
se l'est devenu parce que cette relation extra-conjugale était le mobile de la couronne qui a été évoquée à la couronne au moment du procès. Donc, Jacques Delisle, qui était un jeune retraité en forme encore, là, qui avait toutes ses capacités physiques et intellectuelles, aurait assassiné son épouse, qui, elle, était paralysée de tout le côté droit, qui se remettait d'une fracture de la hanche difficile, pour rejoindre sa maîtresse, qui était sa secrétaire de 20 ans, sa cadette. Donc, c'est devenu un élément important de cette cause-là, selon la théorie de la couronne, en fait. Et c'est la thèse à laquelle le jury a adhéré en 2012 en le déclarant coupable.
Est-ce que ça avait été prouvé qu'il avait cette fameuse maîtresse-là?
Bien sûr, elle était venue témoigner même dans une espèce de scène un peu, où, sans dire malaisante, là, mais il y avait une tension, on comprend bien, là, cette femme-là qui n'a absolument rien demandé là, et qui s'est retrouvée complètement catapultée dans un procès ultra médiatisé où elle devenait un élément important quand même puisqu'elle était l'un des mobiles évoqués par la couronne.
Votre senti, ça demeure un juge, Jacques Delisle, lors du premier procès en 2012, c'est quoi votre senti, la communauté journalistique? Vous dites-tu, il va s'en sortir, c'est un juge? Ou à un moment donné, dans le procès, vous faites... Hey, il est foutu bien raide.
Bien, nous, notre travail, c'est de rapporter.
Hein? Ouais,
donc,
ouais.
Moi, je veux dire, je peux parler pour moi, je peux pas parler pour mes collègues. Là. Mais nous, on arrivait le matin, puis c'était un peu une boîte à surprise à chaque fois. Là. On savait pas trop ce qui allait se passer. C'est un procès qui s'est étiré quand même sur 5-6 semaines. Et rapidement, c'est devenu un combat d'experts. Parce que là, on s'entend, il n'y a pas de témoin. Là. La seule personne qui sait ce qui est arrivé ce matin-là, ben, c'est Jacques Delisle. Jacques Delisle n'a pas témoigné. Nicole Rainville, elle est décédée, elle n'est pas là. Donc, tout le monde venait débattre là, de l'angle de tir, de la trajectoire de la balle dans le cerveau, de comment on peut reproduire la tache de noir de fumée.
Mais tu avais tout et son contraire. Des experts qualifiés qui disaient une chose et l'autre disait l'inverse total.
Aux antipodes. On avait vraiment d'un côté la couronne là, avec sa thèse du meurtre prémédité et de l'autre côté la défense là, où on présentait Nicole Rainville comme une femme suicidaire, dépressive, qui a passé à l'acte en tenant l'arme à l'envers là, pour obtenir les mêmes marques qu'on retrouvait sur son corps. Donc, c'était vraiment... deux versions complètement contradictoires à l'époque. Et c'est ça, le jury a adhéré à celle de la couronne.
2021, on pense que tout est somme toute assez bouclé. Maintenant, on retourne en cour avec l'affaire du juge Jacques Delisle. Comment on prend la nouvelle? Comment est-ce qu'on peut nous ramener dans cette ambiance-là de stupéfaction?
Bien, moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais en congé de maternité.
Là, t'as-tu dit, je retourne à
la
job?
Oui, c'est ça que j'ai fait. C'est exactement ça que j'ai fait, mais la nouvelle est tombée par communiqué. Là. C'est le ministre David Lametti qui était ministre fédéral de la Justice à ce moment-là. Il y a un communiqué qui était mis, bon, je me demande si c'était sur Twitter, en affaire de même, en disant qu'il ordonnait un nouveau procès parce qu'il avait il était convaincu de la possibilité qu'il y ait une erreur judiciaire. Et c'est tout ce qu'il dit. Hein. Le ministre n'avait pas, il n'a pas l'obligation de s'expliquer. Il ne l'a pas fait. Mais là, c'est l'affaire qui repart. Là, à ce moment-là, Jacques Delisle, ça fait 9 ans. Qu'il est incarcéré. Ça fait 6 ans qu'il a déposé une demande de révision ministérielle. Tout le monde est sur le qui-vive. Puis ce genre de processus-là, c'est très, très rare qu'au final, là, on ait une mesure de redressement comme un nouveau procès ou un renvoi à la cour d'appel. Généralement, ça meurt de sa belle mort, sauf si on a un élément, là, vraiment, parce qu'il faut un élément nouveau là, qui aurait changé l'issue du procès.
Il l'avait pas vraiment, cet élément-là?
Bien, le ministre Lametti a jugé que oui, parce qu'il y a eu un nouveau procès. Maintenant, la couronne a écrit à 2 reprises à Ottawa en disant « pointez-nous l'erreur judiciaire, parce que nous, on la voit pas ». Et c'est 2 lettres qui sont demeurées sans réponse. Mais en 2021, ça change rien que le ministre ordonne une décision, ordonne un nouveau procès. Jacques Delisle sort de prison, et là, on revient où on était à 2010, dans le sens qu'on a... un juge en attente d'un procès pour le meurtre prémédité de son épouse.
Qui est en liberté.
On l'a remis en liberté. Il a eu droit à revoir un peu tous les avantages qu'une personne qui n'a aucun crime derrière la cravate a dans sa vie. T'sais.
Et il est retourné chez lui, là même où sa femme était décédée en 2009.
Et là, bon, issu du procès, on le connaît quand même, mais chose étant, ça a rebrassé beaucoup de cartes. Ça a tellement brassé de cartes que Jacques Delisle a eu aussi des propos qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il est allé jaser aussi avec des gens, mais chose certaine, on se demandait ce qui allait arriver dans tout ça, puis on se demandait si on n'avait pas incarcéré un juge officiellement pour rien pendant tant d'années. Puis ça avait résonné beaucoup dans la population. Puis ce que ça avait amené, je pense que puis la dichotomie sociale est intéressante là-dedans, c'est des gens qui se disaient, officiellement, ils étaient peut-être honnêtes et on ne s'est pas fait jouer d'une personne qui connaissait tellement le droit qu'il s'est fait avoir. Est-ce que tu penses qu'on a donné un genre de free ride à Jacques Delisle à certains moments, pour le meilleur et pour le pire?
Mais c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, par exemple, que son statut de juge faisait en sorte qu'il avait joui de privilèges, hein, que le ministre avait ordonné un nouveau procès, puis que si ça avait été un plombier, par exemple, là, sans aucune offense pour les plombiers, là, mais si ça avait été quelqu'un de plus standard...
Ça va toujours rester une question suspecte.
C'est jamais sûr. On avait entendu ça auparavant. Là.
Mais d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui ont dit, ben, au contraire, son statut de juge lui a nui. Parce qu'on n'a tellement pas voulu... donner l'apparence d'un conflit d'intérêts ou de favoritisme, que justement, ben, ça a pris 9 ans avant qu'il obtienne un semblant de justice pour lui, là, puis qu'il puisse avoir un autre procès. Et il faut dire aussi que cette affaire-là, elle s'est terminée en mars 2024. Jacques Delisle a plaidé coupable. Jacques Delisle, qui clamait son innocence depuis 15 ans, a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire.
Encore des choses qu'on n'avait jamais entendues.
Il a reconnu avoir fourni l'arme chargée à son épouse avec laquelle elle s'est enlevée la vie. Mais, autre revirement, quand Jacques Delisle plaide coupable, la couronne se lève et dit « Bon, ben nous, l'homicide involontaire, ça nous va. Tu sais, on est d'accord avec ce chef d'accusation-là. » Mais la trame factuelle... ça, on n'approuve pas ça. On n'est pas d'accord avec ça. Nous, la couronne et les policiers, même encore aujourd'hui, continue d'être convaincu que si Jacques Delisle avait eu un second procès, il aurait pu être reconnu coupable de meurtre prémédité à nouveau.
À cet effet-là, justement, on écoute Patrick Michel, directeur des poursuites pénales dans le dossier Jacques Delisle, justement après le récit de culpabilité de M. Delisle.
Sa responsabilité, à tout le moins en partie, dans la mort de sa femme.
Alors, dans l'histoire des erreurs judiciaires au Canada, ça, en soi, c'est sans précédent que quelqu'un qui se prétendait victime d'une erreur judiciaire plaide coupable.
C'est là le boblesse, c'est que pendant 15 ans, il a dit « je suis innocent » pour finalement plaider coupable. Mm. Et là, M. Michel avait expliqué, écoutez, là, on n'est pas retourné dans un autre procès parce que ça aurait été invraisemblable.
Oui. Il y avait une question d'une saine administration de la justice. Là, Jacques Delisle était rendu à 89 ans. On voyait qu'il était affaibli, difficulté de se déplacer. Il y avait des soucis d'audition aussi. Est-ce qu'on aurait vraiment pu ramener tous les témoins de ce procès-là? Il y en avait qui étaient partis à la retraite aussi. Est-ce qu'on aurait vraiment pu raisonnablement croire qu'il y aurait un second procès là-dedans? Donc, c'est clos pour une saine administration de la justice. Je comprends que tout le monde est satisfait. Mais dans un procès, puis la justice, c'est aussi une recherche de vérité.
Oui.
Et là-dessus, bien, on n'a peut-être pas réussi à trouver la vraie vérité là-dedans.
Parce qu'il est décédé à l'été 2024, à 89 ans. L'histoire est encore difficile à avaler pour bien des gens, un peu comme la couronne demandait les faits. Est-ce que tu crois que l'affaire est bouclée?
Mais l'affaire, elle est juridiquement bouclée. Ça, c'est certain, là, dans le sens qu'il y a eu un plaidoyer de culpabilité, il y a une peine qui a été prononcée, M. Delisle est décédé, c'est terminé. Maintenant, dans la préface du livre, parce qu'avec la série documentaire, il y a un livre aussi qui est sorti cette semaine que j'ai réédité et réécrit là, pour avoir vraiment l'ensemble de la
saga. Oui, parce que là, vous êtes tombé sur des extraits d'interrogatoires. Là, puis d'ailleurs, oui. On écoutera un extrait par la suite là, qui fait en sorte que... Il y a du nouveau à raconter.
Il y a du nouveau à raconter. On a eu aussi sur l'interrogatoire de Jacques Delisle en 2010 qui n'avait jamais été rendu public et dans lequel M. Delisle parle beaucoup. Mm-hmm. Mais je voulais reprendre...
Est-ce que l'affaire est bouclée juridiquement?
Oui. Dans la préface du livre est signée par le juge Claude C. Gagnon. Le juge Gagnon, c'est lui qui était juge au procès en 2012. Et c'est lui qui a joué le rôle de facilitateur, de conciliateur en 2024 pour amener les parties à s'entendre sur un plaidoyer de culpabilité et terminer le dossier. Et dans sa préface, le juge Gagnon écrit « Les gens qui savent ce qui s'est passé peuvent plus parler aujourd'hui. Hein, ils sont décédés, Jacques Delisle est décédé, Nicole Rainville est décédée. Mais peut-être qu'il y a des gens, quelque part, là, qui savent quelque chose, mais qui ont fait le choix de ne pas parler. Peut-être que non aussi. Là. Peut-être que tout a été dit, tout a été écrit.
Mais on ne le sait pas.
On ne le sait pas. Donc, ces ondes d'ombre-là subsistent un peu dans cette réalité-là qui persiste.
Crois-tu qu'il pourrait avoir ses enfants qui connaissent la vérité? Parce que je me souviens, quand il était reconnu coupable, là, son fils criait dans le corridor du palais de justice « Papa, je t'aime ».
Mais par la suite, ça a comme changé un peu de discours aussi. Je pense qu'il était mêlé. Quelle histoire pour les enfants?
Je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais chose certaine, j'ai énormément d'empathie pour les enfants là, qui, un peu comme la maîtresse, en fait, là, ont été vraiment catapultés dans cette affaire-là. Dès les débuts, les enfants se sont vraiment ralliés derrière leur père. Je pense foncièrement là, qu'ils sont convaincus que leur père n'a pas commis le meurtre de leur mère. Là, ça, on l'a senti dès le début. Maintenant, est-ce qu'ils savent quelque chose? Là, je m'avancerai pas jusque-là.
On écoute justement un extrait, un des cinq extraits là, d'interrogatoire qui se retrouvait justement sur le site web Journal de Québec. C'est un extrait qui est court, mais qui exprime, où Jacques Delisle exprime qu'il est sans remords.
L'éliminer. Là. Fait que la petite affaire qui manque, c'est juste l'aspect remords. Si vraiment vous me dites que vous n'êtes pas un sans-cœur, puis ce qui s'est passé ce matin-là, c'est vraiment une perte de contrôle. C'est momentané, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Puis...
Il y a des remords. On a des remords quand on a commis quelque chose de pas correct, mais il n'y a pas de remords si on n'a rien à se reprocher.
Je pense que moi, j'ai retenu quand on a fait quelque chose de pas correct et qu'on n'a rien à se reprocher. Je pense que, finalement, en plaidant coupable, homicide involontaire, il a admis avoir aidé sa femme à se suicider. Je suis convaincu que dans sa tête, il n'a pas fait quelque chose de mal en faisant ça en raison de sa condition physique.
Bien, c'est un peu ce qu'il disait même en 2015. Là, Jacques Delisle a dit pendant longtemps qu'il n'avait pas commis de crime.
Mm-hmm.
Bon, maintenant, on pourrait prendre chaque bout de l'interrogatoire puis essayer de l'analyser à notre manière. Chose certaine, dans cet interrogatoire-là, Jacques Delisle dit qu'il n'a pas commis de meurtre, qu'il n'a rien à voir avec le décès de sa femme. Et on sait que ça, bien, rien à voir avec le décès de sa femme, C'est même faux. Lui, il va l'avouer que oui. C'est mensonger c'est plus tard.
C'est une phrase trop franche, trop directe oui. Et qui ne laisse pas vraiment place à l'interprétation. Rien à voir. Moi, je reste parmi celles qui n'auront jamais de réponse. Je pense que je me retrouve auprès de certains citoyens, citoyennes et acteurs, ben plutôt des gens qui regardent ça avec un œil à l'écart. Mais je vais toujours être déchirée entre un homme qui avait peut-être une maîtresse, qui voulait continuer de vivre sa vie, puis trouvait bon que sa femme était rendue du malade mm-hmm. à un point, et donc peut-être présumé meurtrier
en
là-dedans.
En guillemets, sa femme était rendue un boulet. Là.
Ou encore un genre d'alliance entre les deux qui se disent « Ben oui, moi j'ai beaucoup de souffrance, je veux mettre fin à mes jours, mm-hmm. comment est-ce que tu l'acceptes? » Est-ce que c'est un genre d'alliance amoureuse dans ce cas-ci? Donc ouais. Peut-être qu'effectivement, le juge de liste n'a pas commis de meurtre là-dedans, a aidé sa femme à quitter ce monde de manière assez violente, mais quand même. Ou encore, ben tout simplement que c'est elle selon l'histoire initiale, mais là maintenant avec certains aveux, c'est autre chose, c'est là, mais je n'aurai jamais, jamais de conclusion personnelle là-dedans. Mm-hmm.
Catherine Lamontagne, merci pour ce cours d'histoire 101 de l'affaire Jacques Delisle. 418-971-1021. C'est quoi vos souvenirs de cette affaire-là? Comment vous avez vécu le tout? Moi, je me souviens que j'ai suivi ça attentivement parce que c'était vraiment un procès qui sortait de l'ordinaire. Quand tu as d'autres bonnes histoires comme ça, tu viens nous voir?
Oui, avec grande joie.
Je vais te souhaiter une bonne soirée électorale dimanche.
Merci.
Tu couvres Lévis. Par la suite, des petites vacances bien méritées.
Oui, des petites vacances.
Je vais te souhaiter des bonnes vacances. Tu le mérites grandement. Joyeuse Halloween avec tes enfants ce soir.
À vous aussi.
À la pluie. Oui. Let's go, on y va. On n'est pas frileux. On n'est pas comme à Montréal. Montréal, ils veulent changer ça de jour. Hey, wow, mais là, on n'est pas de même, nous autres. Merci beaucoup, Catherine.
Merci
après la pause, table ronde, justement, parlant des élections municipales, Pascal, parce que Émilie Pelletier du Journal Le Soleil, la collègue de Catherine, Stéphanie Martin du Journal de Québec et Irénée Rutema, notre chroniqueur politique municipal, s'installent ici avec nous. Puis on fait le tour de cette campagne électorale-là. Bon, on va y aller de nos petites prédictions aussi pour le résultat du dimanche.
On est à la fin de cette campagne, mesdames et messieurs.
Et voilà, enfin, diront plusieurs.
Oh, beaucoup.
Vous êtes à l'émission Nageur sur les ondes de Boulevard 102.1. Jusqu'à